Chapitre 10. L'envie sans le courage. Je suis venue sans le chien, en train puis à vélo, pour une course de l'autre côté de la ville après mon rendez-vous. J'aime cette formule. Rien n'est loin quand on pédale. Et je savoure ces premières journées d'automne qui sentent encore l'été comme des sursis à l'hiver. Les rayons de soleil diffusent une agréable sensation chaude sur la peau, mais le fond de l'air devient frais. Le fond de l'air. C'est une drôle d'expression. Comme s'il y avait un fond et une surface, au même titre qu'une étendue d'eau. Peut-être, finalement. C'est idiot, j'ai l'impression que les consultations sans Bloom sont plus intimes. Comme si le fait qu'ils n'entendent pas me permettait de parler de sujets différents. Quoique je n'ai pas le sentiment de me censurer en sa présence, celle d'aujourd'hui tombe bien. J'ai refait des cauchemars très violents cette nuit. J'ai peur de ne jamais m'en sortir. D'être définitivement tatouée par ce qui m'est arrivé, malgré le souvenir flou. Dissociation, m'avait dit Diane en début de thérapie. Quand on a failli mourir, le cerveau oublie pour se protéger. Les seules images de l'événement sont celles qu'on vous rapporte. On range le passé dans un coffre-fort inaccessible, mais la peur de mourir persiste et revient dans d'autres situations, parfois plus anodines. Diane est cependant optimiste, voit le chemin parcouru. Spécialiste du stress post-traumatique, elle a l'habitude des cas comme le mien. J'ai retrouvé un quotidien normal. Cela fait environ un an que je n'ai plus de flashback en journée, de crise de panique ou de comportement d'évitement. J'ai pu assez vite reprendre mes fonctions, même si j'ai changé de branche, même si je ne repartirai pas en Afrique. Là où je rêverais de n'avoir plus aucun symptôme, elle trouve les progrès énormes, soit. Je lui fais confiance. Elle attend encore de moi que j'arrive à mettre des mots sur la scène. J'en suis incapable. Mon cerveau ne trouve pas la clé du coffre. Je suis en train de m'énerver sur une de ces attaches à vélo mal conçues de l'autre côté de la rue, accroupie à la hauteur du garde-boue, quand je vois sortir une jeune femme de la maison où je me rends. La fille du quai. Elle porte le même manteau, le même sac à main. Caractéristique fatigante, mais parfois utile, j'ai tendance à me souvenir des détails. Je l'ai reconnue avant de voir son visage. Elle s'est attachée les cheveux en un chignon simple. Je retrouve sa démarche, même sans sa valise derrière elle. Encore un peu courbée, comme si elle portait une partie de la misère du monde. Une petite partie, c'est déjà trop quand il s'agit de misère. J'en ai le souffle coupé. Je ressens une joyeuse surprise. Mon cœur cogne dans ma poitrine. La probabilité de la croiser une seconde fois à 2 semaines d'intervalle était tellement faible que je ne m'étais pas autorisée à l'imaginer. Elle n'habite donc ni dans une autre ville, ni dans un autre pays, ni sur la Lune. Je pourrais me relever, courir derrière elle, l'aborder, lui dire que nous nous sommes déjà vus, me réjouir de l'heureux hasard, du signe du destin à y voir. Je n'en fais rien. Je reste accroupie. Je me dissimule derrière le vide entre les rayons de ma roue arrière, pétrifiée, émue. Quelques secondes à peine. Je me sens comme le photographe qui attend sans un bruit depuis des semaines et qui voit soudain apparaître une panthère des neiges. Quand elle disparaît à l'angle de la rue, je reprends mon antivol casse-tête, qui s'imbrique alors parfaitement autour du socle et du cadre. Je me rue dans la salle d'attente, impatient que Diane m'accueille, pressé de lui en parler. Sa porte est encore fermée. La jeune femme doit être suivie par le docteur Diderot. À quelques secondes près, je la croisais dans le parc. Je ne sais pas si je le regrette ou si j'en suis soulagée. Une telle rencontre inopinée m'aurait déstabilisée. J'ai besoin de savoir, de prévoir, de me jouer la scène plusieurs fois avant d'y être confrontée. C'est ce qui faisait ma force au Mali. Parée à toute éventualité. Et c'est le scénario jamais imaginé qui a eu lieu. On s'en est quand même sorti. Diane pense cependant que l'incertitude et l'imprévu contribuent à la persistance du traumatisme. que le malheureux événement a accentué ce besoin d'anticiper au lieu de le soigner. Je me lève d'un bond quand la porte s'ouvre. « Vous voilà bien prompt !» s'étonne Diane. Je lui raconte. Cette jeune femme sortie à l'instant du cabinet, celle précisément que je n'arrive pas à oublier parce qu'elle a touché quelque chose en moi, l'envie de la revoir. Ce mélange de dépit de l'avoir manqué de peu et de soulagement de ne pas avoir été devant le fait accompli au risque de perdre mes moyens. Vous aviez la possibilité de la rattraper. Entre la possibilité et l'action, il y a un mur que je n'arrive parfois pas à franchir. Quelle peur vous a lesté les chaussures à ce moment-là? Celle de l'ennuyer, qu'elle n'ait pas envie? Celle de tout gâcher? Gâcher quelque chose qui n'existe pas encore est ardu. Vous vous en sentez capable?
Oui.
Comment?
Me prendre un vent et renoncer définitivement.
Alors, cette phrase de Sénèque est pour vous. Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux. Car c'est dans cette lutte que ses racines, mises à l'épreuve, se fortifient.
J'ai l'impression d'être un arbrisseau planté dans une dune. J'ai encore fait des cauchemars.
Cette chute sans fin me réveille toujours dans un cri de terreur. Bloom, qui dort dans le salon, accourt et saute sur le lit, enfouissant son museau sous ma main moite. Je mets généralement plus d'une heure à me rendormir après ce genre d'épisode, hanté par les rares souvenirs que je garde de l'opération en plein désert. La peur au ventre, la douleur, le corps immobile de mon collègue. Dès que je ferme les yeux, ces quelques images éparses reviennent et m'obligent à les ouvrir pour voir le plafonnier et réaliser que je suis à l'abri dans mon lit. J'ai l'impression que ces pensées me suivront toute ma vie. Nous y travaillons. Il faudra du temps. Regardez les progrès. À peine Diane a-t-elle fini sa phrase qu'elle se lève et va ouvrir la fenêtre et le premier bouton de son chemisier. Revient vers son bureau, sort du tiroir un éventail qu'elle déploie d'un geste sec, puis l'agite frénétiquement devant son visage. Ma mère vient de sortir de cette période, non sans mal. Je l'ai vue pendant des années ouvrir les fenêtres de la maison, de la voiture, les fermer, avoir trop chaud, puis trop froid, se plaindre d'insomnie, essayer de lisser ses sautes d'humeur, pleurer parfois de ne plus rentrer dans son ancienne garde-robe, pourtant déjà ample, et pleurer parfois pour rien. Le tout en silence car personne ne peut comprendre, puisque personne n'ose en parler. Quelques gouttes perlent sur les tempes de Diane. Elle me fait un petit signe de la main pour m'enjoindre à poursuivre la conversation. Je suppose que vous ne pouvez pas me donner le nom de cette jeune femme dont je vous ai parlé. Celle dont vous n'êtes pas amoureux?
Précisément.
Non, bien sûr.
C'eût été trop facile.
Il eût été plus facile de la rattraper dans la rue.